Merci d'être avec nous sur les antennes de Radio Galère, comme à l'habitude, le mardi de 15h à 16h pour cette nouvelle édition des Carnets de Comaguerre, en compagnie toujours de Marie-Ange, que je salue.
Bonjour.
Et de Sylvie, que je remercie pour sa présence active.
Bonjour.
De l'autre côté de la vitre. Alors, c'est pas un poisson, c'est un homme, c'est un ami. Mais on dit toujours derrière la vitre, on pense à un aquarium. Alors, quelquefois, il fait aussi chaud que dans l'eau tropicale, mais c'est pas ça qui nous arrête. Alors, je vais commencer par une actualité très brûlante, parce que le hasard fait que, certaines fois, nous commençons l'émission, alors que dans la matinée qui a précédé, bon, matinée pendant laquelle on se livre aux derniers préparatifs, il y a beaucoup d'éléments qui changent sur un dossier qui est important. Ça a été le cas ce matin, ça avait commencé un petit peu hier, mais ce matin, sur la question donc de cet avion russe, cet avion militaire russe, l'Ilyushin 20, qui a été abattu par des missiles au large de la côte syrienne, alors qu'il rentrait vers l'aéroport, l'aérodrome plutôt de Eminem, qui est l'aérodrome russe, donc, qui est situé à côté de Latakié, sur la côte syrienne. Alors, ça a été intéressant parce qu'on était à chaud dans la recherche d'une vérité. On a eu toute une série de versions. Et puis, la version définitive a fini par apparaître en fin de matinée ou au tout début d'après-midi sous la plume d'un communiqué du ministère de la Défense russe, puisqu'il est quand même le premier concerné, puisque cet avion donc, est tombé. Son équipage est apparemment mort complètement. On n'a pas de nouvelles, mais c'est probable. Et on ne savait pas d'où était venu le tir meurtrier. Alors, on sait, alors paradoxe, on sait maintenant, et c'est établi, que c'est un missile tiré donc par la défense antiaérienne de l'armée arabe syrienne, de l'armée officielle, qui a tiré sur cet avion en le prenant pour un autre. Alors, en le prenant pour un autre, parce qu'effectivement, cette zone-là du ciel et de la mer, vous le savez, depuis quelques semaines, est très, très surveillée. D'abord, il y a quantité de monde, il y a une flotte russe, il y a la flotte de l'OTAN, on l'a appris aujourd'hui ou hier, il y a aussi une frégate de la marine nationale française, il y a beaucoup, beaucoup de monde. Il y a les Israéliens qui viennent, toujours pareil, en passant au-dessus du Liban, qui considèrent que c'est un État qui n'existe pas, puisqu'on fait ce qu'on veut quand on est Israélien, on considère que le Liban, c'est une province supplémentaire, on survole, on bombarde, etc. Bon. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup de monde dans un espace très, très restreint. Donc, il était difficile tout de suite d'établir les responsabilités. Or, les responsabilités maintenant sont claires. Il s'agit d'un tir de la défense antiaérienne syrienne, donc venu de la région de Latakié, très probablement, ou de Damas, ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais cet avion a été pris pour un autre. Et c'est là que tout se joue, c'est-à-dire que cet avion, qui est un avion, donc un quadrimoteur qui vole très lentement et qui allait en plus atterrir donc sur la base russe, allait tout doucement, et il était assez bas, mais il a été couvert, encadré par quatre chasseurs F-16 israéliens qui étaient venus par la mer, toujours en partant du Liban et en revenant sur leur pas vers l'Est. Et à ce moment-là, la défense antiaérienne syrienne l'a pris pour un avion israélien qui allait attaquer la Syrie, ce qui s'est déjà passé un certain nombre de fois depuis le début du conflit et qui s'est accéléré ces derniers. Bon. C'est donc cette espèce de tromperie sur qui était cet avion qui arrivait qui a commis l'erreur, c'est-à-dire que le système de défense antiaérien qu'utilise l'armée syrienne est un système russe d'origine. Ce n'est pas, j'insiste et je souligne, c'est tout à fait important dans l'explication de l'événement, ce n'est pas le système le plus performant. C'est-à-dire que l'armée israélienne sait nécessairement quelles sont les limites de ce système antiaérien, sa rapidité d'exécution, sa confirmation des preuves que c'est bien la bonne cible, etc., avant de tirer. Et donc, ils ont profité de ce qu'ils savaient sur les faiblesses. Le S-200 est un système très ancien qui date d'avant la chute de l'URSS.
La DCA, c'est une DCA.
Donc, c'est assez pauvre. Et au fond, quand on a fixé sur un objectif, il suffit que l'objectif ne soit pas le bon. Et on est toujours sujet. Alors, ce qui s'est passé, c'est que probablement les chasseurs israéliens qui se sont fait prendre dans le champ d'observation des Syriens et des Russes, tout d'un coup ont dégagé au moment où ils ont su que la DCA syrienne allait tirer, et donc c'est l'avion russe qui a pris. Donc bilan, un avion très important du point de vue de la conduite tactique des opérations, surveillance du ciel, surveillance des radars, surveillance des tirs des uns et des autres, 14 morts, un échec pour la Russie, apparemment, ça ne sera pas une difficulté diplomatique, mais ça peut compliquer les rapports entre l'armée arabe syrienne et la Russie. Ça, c'est pas impossible. Et puis, ça souligne le fait qu'il y a de ça quelques mois, souvenons-nous, la Syrie avait caressé l'espoir que la Russie lui livrerait le meilleur système qui s'appelle le S-400, et la Russie a refusé. C'est-à-dire qu'on a là, le doigt est mis sur une certaine faiblesse de la coopération entre les deux pays, c'est-à-dire que la Russie n'est pas allée jusqu'à fournir les meilleurs systèmes d'armes dont elle est le possesseur à l'heure actuelle pour réserver à la Syrie ce qu'elle avait déjà, c'est-à-dire des systèmes un petit peu anciens qui tirent de façon moins précise et qui auraient été en capacité donc d'abattre un avion russe, alors que ce n'était évidemment pas le but de l'opération. Et lui, en plus, c'est une perte pour la conduite des opérations aériennes dans les jours qui viennent et dans les semaines qui viennent. Tout ça pour souligner la difficulté qu'il y a, mais l'intérêt qu'il y a aussi à décortiquer dépêche après dépêche, celles qui sont venues donc du ministère de la Défense nationale à Moscou, celles qui sont venues directement d'amis qui sont en Syrie, celles qui sont venues d'autres provenances. Et puis, pour souligner que un acteur supplémentaire était là dans ce champ de tir étrange et bien surveillé par ailleurs, qui s'appelait la frégate Auvergne. Alors vous ne connaissez pas, la frégate Auvergne, c'est donc un de ces bâtiments légers de la marine nationale française, dont on n'avait pas parlé jusqu'à ces derniers jours. On avait dit qu'il y avait des bateaux américains, des bateaux russes, etc. Là, l'Auvergne n'avait pas été citée. Et pourtant, elle était là. Et pourtant, d'après le ministère des Affaires étrangères russe et le ministère de la Défense, la frégate Auvergne a tiré des missiles. Alors, sur qui a-t-elle tiré? Alors, est-ce qu'elle a essayé de tirer sur l'Ilyushin 20 et qu'elle l'a raté? Est-ce qu'elle a servi de leurre en attirant l'attention de la défense antiaérienne syrienne pour qu'elle tire à côté? Enfin, on sait pas trop, pour éviter que ce soit les F-16 israéliens qui soient tirés par la défense antiaérienne. Enfin, tout est possible. Toujours est-il que le ministère de la Défense français est d'une discrétion très importante, à l'inverse des autres qui expliquent quoi, comment, en particulier les Russes, parce qu'ils n'avaient pas annoncé qu'il serait là. Il était là dans une espèce de coup tordu, bizarre, monté manifestement par les Israéliens et chapeauté probablement par les États-Unis par derrière. Mais on se retrouve là, c'est aussi une deuxième observation qu'il faut faire, dans la situation à la libyenne, c'est-à-dire les États-Unis tirent les ficelles par derrière, éventuellement même donnent des informations sur les avions qui circulent, les missiles tirés, parce qu'il peut y avoir très bien un AWACS qui tourne là autour et qui fait le travail de l'Ilyushin 20 à l'étage au-dessus de l'atmosphère, mais ce ne sont que les chiens de guerre, je maîtrise mes mots, ce ne sont que les chiens de mer français et israéliens qui mènent les combats. Et donc, en fait, dans l'intérêt global de la stratégie des États-Unis de détruire l'État de Syrie, qui est aussi la stratégie d'Israël, mais au fond, le Pentagone, alors on ne sait pas, il y a tout un débat, si c'est Trump qui se fait forcer la main, ou s'il laisse faire parce que comme ça, ce n'est pas lui le responsable, etc. Toujours est-il que, clairement, l'opération donc, franco-israélienne, la France était là, elle a tiré, donc quel rôle elle a joué, on le saura probablement assez vite, mais il s'agissait d'une opération pour déborder les États-Unis, au moins la position de Trump. On veut une guerre contre la Syrie, et on l'aura. Alors là, on a une belle, très belle victime, il y a un avion russe donc de grande capacité stratégique, 15 hommes à la mer, etc. On a là un objectif très très important qui a été atteint. Et qui au fond, pour les États-Unis, il n'y a rien à se reprocher. On n'a rien fait, on a mis en garde, il ne fallait pas qu'il y ait d'attaque sur Idlib, il n'y a pas eu d'attaque sur Idlib, il y a eu ça, il y a eu une bavure franco-israélienne. Et hélas, on retrouve Emmanuel Macron dans le rôle sinistre de Nicolas Sarkozy il y a quelques années en Libye. Exactement le même. Le chien fou qu'on met en avant et qui fait un peu n'importe quoi et qui met le feu tout seul.
De toute façon, le ministère de la Défense russe a dit qu'ils avaient des photos satellites.
Voilà, oui, il n'y a donc, pas de doute sur le tir de missile.
On saura exactement voilà. Qui a fait quoi.
La frégate a tiré, ça c'est clair. Alors, quel rôle elle a joué? Est-ce qu'elle a tiré trop tard? Est-ce que l'affaire était déjà pliée? Est-ce qu'elle a fait un tir qui était un leurre pour tromper la défense? Enfin, tout est possible, on le saura, mais de toute façon, elle était là pour tirer, elle a tiré, donc elle avait l'accord de l'état-major du président de la République. Donc, je maintiens, Emmanuel Macron est un chien de guerre. On le savait, c'est confirmé.
Ça arrive quand même le même jour que la rencontre du président russe Vladimir Poutine et du président turc à Sotchi hier. Donc,
voilà, alors tout ça est lié.
Il y a eu donc un accord, des accords notamment de coopération économique concernant la construction du gazoduc Turkish Stream et de la centrale nucléaire civile d'Akuyu. Donc ce sont des accords qui sont particulièrement bienvenus pour Ankara. Bon, donc là, ça ne fait pas les affaires ni d'Israël, surtout pas d'Israël, ni non plus évidemment de tous les membres de l'OTAN, États-Unis en tête. Voilà. Tu avais l'intention d'en parler ?
Oui, j'avais l'intention d'en parler un peu plus, parce qu'au fond, qu'est-ce qui se passe par rapport au cas d'Idlem ? C'est-à-dire qu'on attendait depuis semaines et tout un assaut sur ce dernier bastion des terroristes, mais où on sait que les terroristes ne sont pas seuls, puisqu'ils ont donc des civils qui leur servent de bouclier, on connaît le dispositif, il n'y a pas de souci. Et donc, on avait entendu monter tout le monde très, très haut dans le ton, vous allez tuer des civils, etc. Ça n'aura pas lieu, manifestement, après l'accord d'hier entre Erdogan et Poutine, ça n'aura pas lieu, mais il y aura autre chose qui va avoir lieu, c'est-à-dire qu'il y aura une bande neutralisée entre les troupes de l'armée syrienne et la zone d'Idlib, il y aura une bande qui sera neutralisée dans laquelle circuleront des Turcs et la police militaire russe. En attendant que, alors, en gros, la conclusion que j'en tire, elle a été tirée par un journaliste qui dit, en fait, on laisse 2 mois à Erdogan pour vider l'abcès. C'est lui, on sait que, alors je vais vous donner des éléments là-dessus, on sait que c'est lui qui est sur place, enfin lui, ses troupes, ses hommes, ses services de sécurité, avec quelques autres, mais surtout lui. Et donc, plutôt que de tirer dans le tas, alors qu'il n'est pas prêt du tout et qu'il n'était peut-être pas décidé à vider l'abcès, parce qu'on ne sait pas quel jeu il joue toujours, là, il est clair qu'on lui laisse 2 mois, on dit à l'armée arabe syrienne, vous pouvez encercler tout autour, mais vous n'attaquez pas. Alors ça évite effectivement des combats qui auraient pu être extrêmement violents. Et donc il y a un délai qui est fixé par Poutine. Et je pense qu'une fois vu ce qui s'est passé après donc la chute de cet avion Ilyushin 20, je pense que la Russie ne sera plus prête à composer ou à faire trop de gestes de souplesse diplomatique. Et donc ça veut dire qu'il y a le temps, mais c'est la Turquie qui est maîtresse du jeu dans Idlib, comme elle l'était déjà. Il y a les troupes sur place. C'est à elle de corriger, enfin de trouver dans ceux qui sont là, qui sont des terroristes de petit niveau, ou les vrais terroristes qui veulent le rester, de faire peut-être le tri, si encore il reste un tri à faire, mais il a déjà commencé beaucoup, beaucoup à l'amont.
En tout cas, tous mercenaires.
Voilà, tous mercenaires.
Tous
voilà,
mercenaires, voilà. Avant d'être donc des djihadistes.
Voilà, tout à fait. Alors savoir, bon, est-ce qu'il y en a qui vont accepter donc de passer, donc de jouer la pacification, d'autres vont certainement décider de servir ailleurs pour la même cause, donc aller, qui en Libye, qui en Afghanistan, enfin, il y a l'embarras du choix dans les cibles de l'impérialisme. Mais toujours est-il que c'est aujourd'hui entre les mains de Erdogan, il est sur place et simplement il y a cette zone de protection qui évite que l'armée syrienne a la bataille tout de suite, en attendant que les choses se vident petit à petit sur Idlib. C'est-à-dire que ceux qui veulent partir partent, ceux qui veulent se rendre, mais on ne tire pas à vue sur cette zone-là. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais je vais vous donner des indications sur ce qui se passe en réalité dans ces zones-là. Et je vais me référer pour ça à un document du Parti communiste syrien. Alors vous savez que c'est quand même ce fameux régime syrien a quand même la correction, parce que c'est un régime donc où il y a des libertés publiques, il y a des élections, il y en a même aujourd'hui, en ce moment même, il y a des élections municipales en Syrie, c'est-à-dire que dans ce contexte où il y a des avions qui passent, des missiles, etc., la vie civique, sociale continue comme elle a continué pendant tout le temps de la guerre. Je rappelle qu'il y a déjà eu d'autres élections, une élection parlementaire, une élection présidentielle en 2016, tout ça s'est fait. Alors sur les partie, bien sûr, du territoire, d'abord non désertique, et d'autre part...
Et libéré
par l'armée arabe, des mercenaires. Mais il y a donc une continuité de la vie démocratique et de la vie des institutions de la République arabe syrienne qui est incontestable. Et aujourd'hui même, au moment où je vous parle, on parle de batailles, de missiles, d'avions abattus, il y a des élections municipales. Il y a 40 000 candidats pour 18 000 postes à pourvoir dans les communes syriennes.
Ce qui nous montre que la Syrie n'est pas un État failli. C'est appelé donc
un
groupe de recherche qui s'appelait donc une recherche sur les États faillis, la Syrie y étant. Ben voilà, la Syrie justement n'est pas un État failli,
parce que
la Syrie, l'État syrien est toujours debout, fonctionne.
Debout. Alors il y a effectivement une partie du territoire qui échappe, parce qu'une partie du territoire où il y a un monde fou, sauf des Syriens. Il y a des Syriens, hélas, les boucliers humains c'est des Syriens, mais il y a des Kurdes de Turquie, il y a des tas de choses, des mercenaires de toutes sortes, de tous les pays du monde, d'ailleurs, ce qu'on sait, des Ouïghours, des Turkmènes, des Tchétchènes. Enfin, il y a l'embarras du choix. Il y a un monde fou.
Est-ce que tu as prévu de parler, donc de dire quelles étaient quand même les cibles des avions israéliens à l'attaquer et autour de l'attaquer. Donc, les cibles, semble-t-il, sont les centres de recherche industrielle. Donc, il s'agit pour Israël de décapiter donc, les scientifiques de haut niveau syriens.
Ouais,
comme ils l'ont fait en Irak.
Ils ont tué, il n'y a pas si longtemps, un scientifique syrien. Voilà. Donc, c'est effectivement affaiblir l'État en cassant, en coupant la tête, effectivement. Et pour aller dans le même genre de propos et de positions et d'annonces, il y a une nouvelle fois des photos publiées donc par un site israélien donnant le plan détaillé du palais présidentiel en disant « un jour on le tuera ». Alors qu'ils en meurent d'envie, on a compris depuis très très longtemps, que lui ait l'intelligence d'avoir compris qu'il lui en voulait. Bon, on s'en doute aussi.
Il vaut mieux qu'il aille dans son petit studio ou grand studio ailleurs.
Voilà, mais ça fait partie du climat psychologique. C'est-à-dire que, et aujourd'hui, mais qui aujourd'hui, je ne pense même pas à l'ONU, mais quel est même le chef d'État, je ne parle pas du nôtre, puisqu'on sait à quoi il sert, et c'est un chien de guerre, mais quel est le chef d'État qui va s'insurger en disant « mais qu'est-ce que c'est qu'un État qui dit « je vais tuer le chef de l'État voisin ?» Bon, non, c'est normal, c'est monnaie courante. Israël se croit tout permis, parce qu'on lui permet tout, comme d'habitude. Bon, j'espère que la Russie va quand même comprendre qu'il s'agit d'un État dangereux et qu'elle va tirer des conséquences de cette opération mal foutue. Alors je reviens à mon parti communiste syrien, donc pour rappeler qu'il y a un parti communiste syrien qui vit, qui se présente aux élections, etc. Tout ça est vrai, donc il y a une vie civile, une vie politique en Syrie qui continue. Et ce comité central du parti communiste syrien s'est réuni, alors c'était au mois d'août, alors les faits ont un peu bougé d'ici là, mais c'est très intéressant, donc c'est les derniers documents qui sont publiés, et ils ont fait une présentation de la situation générale. Je cite quelques passages. L'occupation turque s'est étendue au cours de la dernière période. On a compris, donc, partie nord-ouest, en particulier autour de l'Idleb, et puis dans la partie un peu plus à l'est. Outre les villes d'Al-Bab et Jarablus, qui étaient occupées par cet État oppressif, la région d'Afrin était également occupée. Les autorités d'occupation turque dans les territoires occupés appliquent des méthodes qui sont catégoriquement interdites par les traités internationaux, comme les changements démographiques. Alors, l'expression est un peu douce. Changement démographique, ça veut dire, là, à cet endroit, il y a des populations comme si je les déplace. Hein. Et puis, ceux qui ne veulent pas, je tire dans le tas. Bon. Les déplacements de population et l'imposition de la monnaie de la puissance occupante. Alors, ça veut dire qu'aujourd'hui, sur le territoire de la République arabe syrienne, il y a des gens qui payent leurs courses en livres turcs, parce que c'est comme ça. Et le Turc, il est là avec son fusil et son pistolet mitrailleur pour se faire respecter. Je continue. Cela avait été précédé par le pillage massif des territoires occupés par l'occupant et ses agents. Alors au passage, effectivement, on arrive, on occupe, on ramasse quelques installations industrielles, des machines-outils, tout ce qui peut servir à une vie économique normale, c'est autant que les Syriens n'auront pas. Le comité central, toujours du Parti communiste syrien, estime que la fermeté du peuple afrinois, donc d'Afrin, et sa résistance à l'injustice des autorités d'occupation constituent un facteur important dans la lutte nationale du peuple syrien. Le comité central apprécie vivement la fermeté de nos camarades afrinois à l'égard de l'occupation. Alors je souligne là qu'à Afrin, c'est principalement des Kurdes syriens qui habitent. Hein, et donc là, le Parti communiste syrien ne rentre pas dans ce jeu ethnico-diviseur. Hein, il dit « ce sont des camarades syriens ». Et il poursuit. « La majorité du gouvernement d'Idleb est sous l'autorité et l'administration de la Turquie ». Toutes les bandes armées de ces régions sont liées d'une manière ou d'une autre à l'administration de l'occupation turque, mettant en œuvre leurs plans agressifs et expansionnistes. Les actions agressives des autorités d'occupation turque et de leurs agents ont provoqué un mécontentement populaire croissant parmi les masses qui sont sous cette occupation, ce qui donne un espoir de changement qualitatif dans la résistance à cette occupation brutale. Alors, qu'en termes galants, ces choses-là sont dites. Le changement qualitatif, ça veut dire pour l'instant, ils souffrent, il serait bon qu'ils se révoltent un peu plus. Hein. Et il ajoute, les colons américains, donc il est très clair dans le choix des termes, cherchent également à établir leur zone d'influence dans le nord-est de la Syrie, en particulier dans la région de Jazira, en maintenant et en étendant le réseau des bases militaires américaines et en s'appuyant sur des organisations qui coopèrent avec l'occupant. Mais les masses de notre peuple dans ces régions expriment de plus en plus leur rejet de l'occupation américaine et des actions de ceux qui la mènent. Voilà. Alors ils disent par exemple, l'un des signes les plus significatifs de ce rejet a été la destruction par le feu du drapeau américain de nombreuses reprises. C'est ce que les communistes syriens ont fait dans les villes de la région de Jazira, exprimant le sentiment des citoyens pour insister sur la résistance et l'occupation, à l'occupation et pour souligner leur appartenance nationale. Le comité central apprécie grandement les prises de position courageuses de nos camarades de Jazira. Et il ajoute, enfin le communiqué est un peu plus long, mais il souligne la justesse de la voie tracée par le Parti communiste syrien dans la situation actuelle. Premier objectif du parti, lutte pour la défense de l'indépendance nationale. 2. Défendre la pleine souveraineté nationale. 3. Lutte pour l'unité du territoire national. Et c'est comme ça qu'on fait un front uni avec le Baas syrien, avec le gouvernement de Bachar el-Assad, etc. C'est un choix politique très très clair et très simplement énoncé. Défense de l'indépendance nationale, défense de la souveraineté, unité du territoire national. C'est en cours. C'est en cours. Il ne reste plus que ces abcès américains à l'est et l'abcès d'Idlib, l'abcès turc, soyons clairs, à côté d'Idlib. Voilà ce que je voulais dire à ce propos.
Où est-ce qu'on peut trouver le communiqué du Parti communiste syrien ?
Alors, il est sur un site qui s'appelle SolidNet, qui regroupe tous les communiqués des partis communistes classiques, SolidNet. Vous allez trouver, alors, alors dans les partis communistes, il y en a qui sont en bonne santé, d'autres qui sont en moins bonne santé. Mais ce site, donc, publie les communiqués de tous les partis communistes officiellement connus sur toute la planète.
Il y a une autre chose qu'on peut ajouter peut-être à propos de ce report de la bataille d'Idlib dont on nous a dit que ça allait être la plus grande horreur humanitaire du XXIe siècle. Donc, la République arabe syrienne avait déjà fait savoir qu'elle considérait comme prudent de repousser la libération d'Idlib après les élections législatives états-uniennes du 6 novembre.
Voilà.
De manière à ce qu'en cas d'attaque, il aurait suffi au Royaume-Uni de mener une opération chimique sous faux drapeau, comme il nous l'annonce d'ailleurs depuis quelques semaines, pour contraindre le président Trump à attaquer la Syrie pendant sa campagne électorale. Or là, vraiment, on a dégonflé quelque chose, puisqu'on n'entend plus parler de ces attaques chimiques. Il y a eu des informations qui ont été données sur ces bidons de chlore qui arrivaient de Turquie. Et donc, il semble qu'il y a quelque chose là qui a pu être désamorcé,
oui. Alors, et qu'en plus, on a vu des répétitions de l'attaque chimique sur des vidéos, c'est-à-dire les casques blancs dévoilés pour ceux qui sont, c'est-à-dire des comédiens qui miment une attaque chimiste, qui ont recruté des jeunes enfants pour faire les participants à tout ça. Donc, ça, effectivement, c'est dégonflé. Ça n'aura probablement pas lieu, mais ça n'a plus lieu d'être. On a changé complètement de ton, puisque l'attaque d'Idlib n'aura pas lieu. Ou si elle a lieu, ce sera après que la Turquie ait échoué à vider tous ses amis proches ou moins proches d'Idlib. Mais c'est pour plus tard, et c'est donc certainement après les mid-term élections de Trump.
Voilà, et en tout cas, pas sous la forme qui avait été annoncée d'un énorme bombardement, d'un énorme massacre, plus grand. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui, au niveau de l'information, est très bien traité. La contre-information, la désinformation est très bien manipulée, est très bien maîtrisée, pardon. Et donc, au point de vue, ça nourrit aussi la stratégie donc, de la République arabe syrienne.
Tout à fait. Alors, il faut voir, puisque pour finir là-dessus, puis qu'on a affaire il y a une guerre sur le terrain, on en voit les effets, on voit les victimes, etc. On voit les tirs, les avions, etc. Et il y a une guerre de l'information, c'est-à-dire qu'il y a une guerre des deux côtés pour savoir qu'est-ce qui est la vérité. On l'établit petit à petit. Ça, c'est le cas pour cet avion abattu. Il y a une vraie guerre, une vraie préparation des opinions. Moi, j'ai rencontré des gens il y a 8 jours qui me disaient « Ah, mais de toute façon, il va y avoir la guerre à Idlib. » On est reparti. Bon, c'était rentré. Alors, c'est là que le rôle de chien de guerre de Macron apparaît pour ce qu'il est. C'est-à-dire que les médias français avaient largement repris cette affaire. Il va y avoir une attaque chimique et nous riposterons parce que s'il fait ça, décidément, c'est trop. Enfin, alors, c'est tellement usé qu'on croit que ça ne marchera plus. Et si, on resserre toujours le même soupe informative. On en est là.
Un mot aussi à propos d'Al-Bab. Tout à l'heure, tu citais Al-Bab qui est donc au nord-est d'Idlib et au nord de d'Alep. Si vous vous souvenez, pendant, et vous pouvez vous reporter sur les documents de ce moment-là, pendant la bataille d'Alep, et quand il y a eu l'immense campagne médiatique de Médecins sans frontières, et notamment du professeur Raphaël Pitti, qui est un médecin de Metz, dont je ne me souviens plus l'ONG qu'il a créée pour ça, eh bien, tous ces gens-là disaient qu'ils opéraient, qu'ils faisaient tous les actes chirurgicaux et tout ça à Al-Bab. C'est-à-dire qu'ils étaient tous dans cette zone qui est dans le gouvernorat d'Idleb, mais qui est tenue par les Turcs. Donc, ce n'était pas n'importe où, voilà. Et c'est de là que venaient les informations.
Tout à fait. Et dernière chose, tu mentionnais Alep, l'avantage de la zone neutralisée là, par l'accord turco-russe donc d'hier, c'est que l'autoroute donc, de Homs et Hama jusqu'à Alep va être totalement libre et il n'y aura plus de problème. Hein. Donc ça donne de la vie à l'économie syrienne et à la vie quotidienne et au transport en Syrie. Voilà ce qu'il fallait dire, et puis on y reviendra sans doute, mais là c'était intéressant d'être à chaud sur un événement important, à la fois la réunion de Sochi hier, et puis les suites. C'est probablement les suites c'était prévu, c'est-à-dire que l'accord de Sochi probablement a déplu au Vatanguerre. Je pense que c'est
oui.
ça aussi. Il
ben
a
oui,
déplu,
bien sûr.
Hein, puisqu'il oui. s'attendait à pouvoir dire on va tirer. C'est pour et ça oui. que la frégate Auvergne, elle était là. C'est pour ça que les F-16 oui. patrouillaient dans le ciel au large de l'Iran, de la Syrie. Tout ça montre bien qu'il y a effectivement des chiens fous, c'est-à-dire que l'impérialisme dominant avance ses pions comme il le fait, avec des contradictions dans son équipe dirigeante. Et puis, il y a des chiens fous qui sont prêts à mettre le feu tout le temps. Hein. Donc, je dis, Macron est un Sarkozy, on ne peut pas être pire, hein, mais de la même veine, toujours le doigt sur la gâchette. Voilà, bon, on va s'arrêter sur la Syrie. Si, quand même, un mot pour terminer pour Trump et la politique des États-Unis. Parce qu'il y a eu sur une chaîne télévision des États-Unis importante une longue interview de cette fameuse élue démocrate d'Hawaï, donc qui est un des États des États-Unis, qui s'appelle Tulsi Gabbard, et qui a tenu très calmement une position qui est tout à fait claire, que je vous résume. Je ne comprends pas pourquoi le président Trump et son vice-président sont toujours à longueur de discours en train de nous dire qu'il faut s'en prendre à Al-Qaïda parce qu'il a tué tellement de monde le 11 septembre chez nous, et dans le même temps qu'ils aident tous les gens qui se réclament d'Al-Qaïda en Syrie, à Idlib, etc. Il y a une incohérence fondamentale entre ces propos. Donc on n'aime pas Al-Qaïda, on l'a dit, on a fait tout ce qu'il fallait pour le démontrer en Irak, en Afghanistan, j'en passe, et en Syrie, et en même temps, eh bien, on les aide, hein, on est des protecteurs d'Al-Qaïda. Bon. Et elle a dit ça très calmement, je pense qu'avec beaucoup d'audience, et tellement d'audience qu'il y a eu des primaires, parce que vous savez donc qu'elle sera les candidates aux élections donc des midterms en tant qu'élue à la Chambre des représentants dans le camp des démocrates, et il y a eu une présélection, comme on fait maintenant, une espèce de vote... Hein, un premier tour entre les électeurs démocrates. Elle a eu 84% des voix des démocrates pour être la candidate du Parti démocrate. Donc elle parle pas haut, pas fort, mais elle parle clair. Et donc on souhaite qu'il y ait d'autres élus de ce gabarit-là dans la population politique des États-Unis. Il faudra bien qu'un jour ça arrive. Et on va changer complètement de sujet. On va déménager dans un endroit que les États-Unis aiment beaucoup, d'ailleurs de plus en plus, qui s'appelle la Pologne. La Pologne, parce que l'occasion m'a été donnée de voir un film réalisé par une réalisatrice polonaise qui vit en partie en France, elle nous l'expliquera. Et ce film, alors, porte un titre étrange, parce que d'abord il est en anglais, donc on se dit pourquoi ce film a un titre anglais, Your Kingdom, donc votre royaume. Et ce film, qui est fait avec une grande économie de moyens, montre qu'il existe, enfin, on le savait, mais ça démontre d'une façon assez glaçante, qu'il existe en Pologne un courant catholique fondamentaliste, un intégrisme catholique, qui dit et qui fait des meetings sur la base « Nous sommes le royaume de Jésus-Christ, la Pologne ». Alors, ce n'est pas une république, comme, contrairement à ce que vous pourriez croire. Non, la Pologne est le royaume de Jésus-Christ, qui mobilise beaucoup de gens, y compris le président de la République en exercice à des messes solennelles en public. Alors, vous avez un président d'une république démocratique, avec un vote, des partis, etc., qui vient assister à une messe où on dit « En fait, ce pays est le royaume de Jésus ». Alors on se tape un peu la tête contre le mur, est-ce que c'est encore possible ? Ben, c'est encore possible, et ça inquiète à juste titre un certain nombre de citoyens polonais, au nombre desquels la réalisatrice de ce film. Il se trouve que cette dame vit depuis quelque temps en France et précisément à Marseille. Donc j'ai eu l'occasion, après avoir vu son film, à l'occasion du Festival international de Marseille, le FIT, au début du mois de juillet, de bavarder un petit moment avec elle pour qu'elle explique qui elle est, pourquoi, et puis de vous faire comprendre à travers ce qu'elle dit comment elle est inquiète, et beaucoup de jeunes Polonais comme elle le sont, par rapport à l'évolution de ce régime, parce que je précise que ces courants intégristes catholiques ne sont pas les seuls courants dans l'extrême droite polonaise, qui a d'autres formes, qui a d'autres apparitions, mais ils sont là. Donc on va l'écouter, puis après je reviendrai un peu sur cette question des religions dans le panorama géopolitique contemporain, qui est tout à fait important et qui là prend un aspect presque caricatural, mais je veux dire que le djihadisme aussi c'est un aspect caricatural et sanglant. Alors l'intégrisme catholique n'est pas sanglant jusqu'à nouvel ordre, mais il est quand même très très inquiétant. Donc on écoute, alors elle s'appelle Agata Lobko, et on va l'écouter, et puis on reparlera de cette question des intégrismes et de l'extrême droite polonaise. Bonjour Agata Lobko, merci d'avoir répondu à notre invitation pour nous donner, à travers votre expérience particulière de citoyenne polonaise vivant depuis assez longtemps en France, votre lecture de la Pologne telle qu'elle est aujourd'hui à travers un film que vous avez présenté, je crois que c'était en première mondiale, au FID, au mois, début du mois de juillet à Marseille. Donc, merci de nous dire ce titre pour votre démarche. Comment en êtes-vous arrivé à concevoir ce film ?
Merci déjà, bonjour, merci à vous de me donner la possibilité d'en parler. Et oui, donc je fais ce film qui était mon premier film, qui a été sélectionné donc au FID Marseille. Son titre est Io Kingdom, Twe Królestwo en polonais. Et c'est un film qui tente, il me semble, de parler de ce qui manque moi dans le monde, de ce qui me constitue. Et c'est dont j'essaye, sur lesquels j'essaye d'avoir un regard un peu critique, un peu distancé. Parce que comme vous avez dit, j'ai ce double regard, ça veut dire le regard de l'intérieur, parce que je suis polonaise, je vais régulièrement en Pologne, malgré que ma vie est faite aujourd'hui en France. Je suis au courant, je suis concernée. Et puis en vivant en France, c'est vrai que les questions sociétales ou politiques sont très différentes actuellement. Et donc peut-être que la possibilité d'avoir ce double regard m'a permis de faire un film tel qu'il était, assez particulier, parce que justement un peu intime, oui. Parce qu'il y avait... donc pas forcément par l'effet qu'il y avait ma famille qui jouait dedans, parce que... Si on en parlera tout à l'heure, oui, je fais jouer ma famille dedans, je leur attribuer des rôles. Pas parce que ça a été filmé dans mon village ou parce que c'était filmé dans la maison de ma mère, mais parce que voilà, ça dévoile quelque chose de moi-même aussi, parce que j'en suis persuadée que malgré les tendances politiques qui changent ici ou ailleurs, en Pologne ou en Europe, les agencements culturels ou sociétal ou politique reste égal à eux-mêmes, quoi, reste identique, demeure identique, parce qu'il y a quelque chose de leur identité culturelle qui ensuite peut être manipulée. C'est ce qui
bien
se
sûr.
Passe.
Oui, bien sûr.
C'est ce qui se passe en Pologne d'aujourd'hui. Mais voilà, c'est un petit peu de ça que je voulais parler, et c'est dans ce sens-là que je considère que ce film a été intime.
Et en même temps, bon, il a passé les obstacles de la sélection du film. Comment ça se passe, les sélections pour le film ?
Eh bien, donc moi, je travaille, je ne veux pas cacher que je travaille au FID Marseille depuis de longues années, sur des postes différents, donc soit en coordination, soit en logistique, soit en accueil de nos invités. Et par contre, il n'était pas question que le film soit choisi sur ces critères-là.
Bien sûr, oui, vous n'étiez pas dans le jury.
Non, je n'étais pas dans le jury, et en aucun cas, le comité de sélection n'a pas pu être influencé par le fait que...
Est-ce qu'il le savait même que vous étiez...
Oui, il savait, je le soumis au comité de sélection, et l'un des membres du comité de sélection qu'il a vu, à qui je remercie parce que c'est un peu grâce à lui, a oui, été oui. très intéressé, et puis il a soumis à Jean-Pierre Hem, le délégué général du festival, qui a tout de suite souhaité démontrer les films hors compétition pendant donc l'édition passée du film Marseille.
D'accord. C'est ce qui s'est passé.
Il est passé.
Il est passé devant un petit auditoire, mais on peut espérer qu'il ait une diffusion plus large.
Alors, j'avais deux projections. Donc, la dixième pour laquelle vous êtes venu, donc c'était en pleine finale de foot. Alors, effectivement, j'avais 15 personnes en salle, mais la première qui a eu la veille, oui, j'étais assez impressionnée par la présence du public, déjà parce qu'il y avait toute l'équipe qui souhaitait me soutenir pour venir voir ces films, parce que je me sens aussi assez fragile à cet endroit-là de réalisatrice, parce que c'est mon premier film, et parce que je n'étais pas tout à fait sûre justement de la réception par le public français, parce que les questions que je touche, dont je parle dans les films, sont justement assez lointaines de ce qu'on peut vivre en France. Donc j'avais peut-être peur de l'incompréhension ou peut-être de une sorte d'un regard trop radical qui aurait du mal à être lu ici. Mais finalement, ça s'est bien passé. Oui, j'avais des très beaux retours. Et ensuite, pour la suite, les films, je continue à le soumettre aux divers festivals. Donc, c'est un court-métrage. Donc, ça limite un petit peu la possibilité de sélection, puis mais sinon si le film n'est pas sélectionné ailleurs, ça a quand même été pour moi un grand tremplin, parce que ça me permet moi de m'affirmer
comme réalisatrice,
et surtout ça m'a donné envie et confiance à creuser dans le sujet, parce que je me suis dit peut-être que j'ai quelque chose à dire et je n'ai pas vraiment fini avec cette travail de mémoire en fait que j'ai fait sur la Pologne, que c'est une sorte de travail de mémoire que j'ai fait, mémoire historique, mémoire culturelle, et je me sens en capacité de continuer à le faire. Donc j'ai un prochain projet de film qui aura lieu aussi en Pologne. J'irai à la recherche de mes personnages peut-être cet hiver pour rencontrer des jeunes militants des mouvements plutôt néo-nazis, parce qu'il y en a beaucoup qui se sont créés en Pologne, parce que la politique polonaise actuelle permet la prolifération des mouvements xénophobes et au contraire ne les limite pas, parce qu'on est dans ces tendances très nationalistes.
Oui, qu'on retrouve en Ukraine, qu'on retrouve tout bien sûr, tout à fait. Oui.
Et moi, je pense que c'est surtout à la jeunesse qu'il faut s'intéresser pour envisager une sorte de futur, quoi, immédiat ou plus lointain. Mais oui, j'ai envie d'écraser avec eux, voir s'ils pouvaient me laisser les regarder et éventuellement filmer.
Et où vont-ils, quel avenir ils ont dans leur tête?
C'est ça.
Alors, parlons de ce film actuel, donc... qu'est-ce que vous avez à dire sur cette société polonaise telle qu'elle est, surtout depuis l'arrivée au pouvoir donc du nouveau parti, ces évolutions qui manifestement vous tracassent?
Oui, bien sûr, ça me tracasse. C'est un sujet qui touche toute la société, qui est la fracture au sein des familles, au sein des différents partis politiques. Il y a un revers conservateur qui m'attriste, bien évidemment, mais je le vois dans un contexte plus global aussi. On n'est pas un pays isolé qui vit ça. On est dans un mouvement populiste qui traverse toute l'Europe. En Pologne, je dirais, et une fois de plus, je ne suis pas politologue ou je ne suis pas spécialiste de ces questions-là, mais il me semblait bien qu'on est plutôt sur un modèle hongrois, sur quelque chose que Orban veut mettre aussi en place, une sorte de... comme on parle de volonté de créer un nouvel État antilibéral basé sur reposant sur les fondements nationalistes. Donc oui, on est dans quelque chose qui est en train de se créer, qui traverse l'Europe, en Autriche, en Italie. Mm-hmm. J'ai des copains italiens avec qui je parle aussi, qui sont un peu catastrophés par les derniers résultats d'élection.
Bien sûr.
Je pense que et la nature des sociétés démocratiques change, les régimes démocratiques changent. Il n'est pas... Je pense que c'est une erreur de penser que chaque démocratie est libérale, par défaut. On est plutôt dans un modèle hiérarchique, modèle patriarcal. C'est ça qu'on est en train de vivre. Et il y a une suite des réformes, donc depuis l'arrivée au pouvoir des Prawo i Solidarność, des droits et justice, le parti ultra-catholique, qui est une sorte de l'extrême droite, alors que l'extrême droite, à certaines époques, on nous aura fait tant de mal, et eux, ils sont vraiment à l'extrême de l'extrême droite. Mettre en place un certain nombre de réformes qui, je pense, auront des conséquences et ont des conséquences immédiates et auront des conséquences dramatiques sur l'évolution de notre régime démocratique qui prend une autre forme, qui est très différente du système français. Quoi. Voilà.
Et en particulier, ça se sent beaucoup dans le film, l'insistance sur l'importance et la prédominance du catholicisme, qui serait presque redevenue une religion d'État officielle.
Oui, plus que ça, même il y a une volonté d'inscrire la religion catholique intrinsèque dans l'identité nationale, ce qui veut dire qu'on est en train d'écarter toutes les minorités, ce qui veut dire qu'on est en train d'attaquer les libertés individuelles. Mm-hmm. C'est de ça que j'ai envie de parler, dans les films aussi, bien évidemment. Il faut se rappeler que cette partie est arrivée au pouvoir, il a été soutenu largement par une bonne partie de prêtres catholiques qui prêchaient la bonne parole politique et mmh. catholique voilà, en Pologne. On parle aujourd'hui il y a une sorte de division des citoyens en bons et mauvais catholiques, en bons et mauvais patriotes. Quand on est bon et catholique et patriote, on soutient les pouvoirs en place. Oui. Et si on s'y oppose, eh bien, on perd cette qualité de bon catholique. Et je pense aussi que, comme ça, historiquement, le fait que c'est un... Évidemment, on connaît l'histoire, donc la Pologne fait partie de ce bloc où les frontières ont été très fermées, où il n'y a pas eu d'immigration importante que la France ou pays sud, d'Europe du Sud ont pu connaître. Parce qu'il y avait le mur de Berlin qui nous séparait de tout ça, et on est dans un pays très mono-ethnique, quoi, très homogène, enfin, très blanc,
un discours simple.
C'est ça, et l'idée de mixité, de venir d'autres cultures, de d'autres religions, et aujourd'hui en Pologne, une question assez délicate, cette conséquence historique, mais aussi... je pense que l'Église a trouvé dans la possibilité de soutenir et de collaborer en quelque sorte avec
la montée de ce parti.
Voilà, une sorte de remontée, parce que c'est vrai que aussi pendant des décennies, ils ont été, les valeurs traditionnelles chrétiennes, catholiques, ont été bafouées par le communisme. Donc c'est vrai que là, ils sont en train de récupérer un petit peu tout cela. Et oui, comme partout, il y a des gens de pouvoir aujourd'hui dans l'Église qui s'emparent de la politique ils vont trop loin. Oui, je pense qu'ils vont trop loin. Et quand on va à la messe, juste avant la période électorale, pendant la période électorale, on entend beaucoup, on n'hésite pas à mélanger les symboles bibliques avec l'idée du mal et du bien, voilà, assez classique, et accuser certaines partis politiques ou certaines personnalités d'être diaboliques ou quoi que ce soit. Donc oui, ça influence énormément les mentalités, et en conséquence, ça influence l'opinion publique électorale.
Oui, c'est un propos qu'on entendrait ici pour critiquer certains prêches musulmans. Exactement. On entend exactement le même là-bas, du côté des catholiques.
Voilà, c'est pas différent, mais dans un discours un petit peu de haine, oui, on peut le dire. Sinon, des manipulations politiques, c'est pas très différent.
Le russe, c'est un orthodoxe, et donc c'est forcément un adversaire
religieux. Oui, en plus, c'est un adversaire historique, voilà, polonais. D'ailleurs, cette idée de l'étranger ou d'ennemi, elle est cruciale pour construire ce discours populiste. Donc voilà, il y a un ennemi intérieur qui aujourd'hui, c'est mauvais catholique, c'est mauvais patriote. Et il y a aussi extérieur, donc qui aujourd'hui est l'Europe et bien évidemment, traditionnellement, la Russie.
Voilà, c'est ça.
Oui.
L'Allemagne est elle-même pas assez catholique non plus.
Il y a une histoire complètement différente.
C'est compliqué. Et les rapports avec l'Ukraine, je parlais de l'Ukraine.
Eh bien, je serais moins peut-être capable de d'en parler. Je vois juste qu'il y a une... Aujourd'hui, beaucoup d'Ukrainiens viennent pour vivre en Pologne, parce que bon, ils traversent une période très difficile,
très difficile
eux aussi.
Ouais, ouais.
Et ils sont maltraités, oui.
Elles sont maltraitées.
Il y a beaucoup de femmes de ménage ukrainiennes qui travaillent dans les maisons, qui sont sous-payées. Il y a beaucoup d'Ukrainiens qui vivent en communauté, comme les Polonais ils pouvaient vivre en communauté en Allemagne,
voilà.
Pour travailler, des petits boulots durs, compliqués. Illégalement, voilà, c'est ce qui se passe. Alors, ils travaillent peut-être légalement, mais ils sont sous-payés. En tout cas, ils ne sont pas payés correctement et dans les conditions de travail qui ne sont pas légales, quoi.
Donc, et perspective donc, de diffusion du film ?
Eh bien, voilà, je continue à les soumettre. J'aimerais beaucoup qu'il soit montré en Pologne. Pour l'instant, aucun festival ne l'a pas pris. Alors,
vous avez les deux versions en langue polonaise.
Oui,
et
bien
en
sûr.
Française.
Oui, voilà. Oui, bien sûr. Le film il est en version originale polonaise avec donc des sous-titres disponibles. Mais oui, je sais pas. Ça, j'aimerais beaucoup les diffuser, mais surtout. Surtout continuer à travailler, oui.
Continuer à travailler sur
d'autres
faire projets. Faire la suite, voilà.
Oui,
c'est
voilà,
ça.
C'est
puisque
ça.
Puisque maintenant vous êtes installée dans votre nouveau rôle de réalisatrice.
Je ne sais pas si je suis installée, mais en tout cas...
Si, parce que votre travail plaide pour que vous deveniez réalisatrice.
En tout cas, ça me donne envie de continuer.
De continuer. Et puis vous avez toute une histoire à raconter, cette histoire biculturelle, ce double regard que vous exprimez très bien. Merci beaucoup, Agatha.
Merci
à
vous,
bientôt.
Bernard.
Voilà, donc c'était un tour d'horizon de cette création donc cinématographique, des interrogations d'une Polonaise vivant en France sur son pays où elle va souvent, puisqu'elle vu l'économie, elle avait très peu de moyens pour faire son film, donc elle a transformé sa famille en comédien dans un petit village de la Silésie, donc à l'extrême ouest, sud-ouest du pays. Et ce sur quoi je me suis arrêté, c'est que le film fait référence à une identité polonaise. Alors, ce concept d'identité est un des plus dangereux à utiliser dans le champ politique, parce qu'on peut lui faire dire à peu près tout ce qu'on veut, et on peut, à partir de cette identité affichée, diviser la société très brutalement, très violemment, entre ceux qui sont du bon côté de l'identité telle qu'on la comprend et telle qu'on l'affiche, et ceux qui sont du mauvais côté. On a un facteur de division très, très, très grave. Alors, dans le cas de la Pologne, ce qui est frappant, c'est que la Pologne se vit et s'affirme comme le pays le plus catholique du monde, avec des taux de participation aux activités religieuses, baptême, mariage, etc., qui montaient presque à 90% à certaines périodes, mais qui sont en train de baisser. C'est-à-dire, on a une église qui est dans une phase donc réactionnaire, c'est ce que je disais en commençant, mais qui en fait perd du contrôle sur les populations. Et ce que dit Agatha, bien qu'elle ne vive pas là-bas, c'est qu'effectivement, une partie des jeunes ne suit plus. C'est-à-dire qu'on voit des attitudes qui évoluent, par exemple sur des questions qu'on appelle sociétales ici, le droit à l'avortement, des choses comme ça, qui sont manifestement une évolution à contre-courant de la volonté de cette identité catholique. Et puis il y a l'affirmation de la Pologne en tant qu'isola extraordinaire historiquement. C'est-à-dire vous avez là, en plein milieu du monde slave, hein, les Polonais sont des Slaves entourés de Slaves à l'est, mais d'Allemands à l'ouest, qui en fait sont des écorchés vifs d'origine, c'est-à-dire qu'entre ces Allemands luthériens, envahissants, guerroyants, les orthodoxes de l'autre côté qui sont pas... Cette espèce d'isola catholique qui a donné donc un pape et qui a donné Karol Wojtyła, donc le fameux Jean-Paul II, qui a été donc l'infrastructure de la résistance au régime communiste. Rappelons-nous les messes de Waleza organisées dans le chantier naval de Gdansk. Les ouvriers commençaient les assemblées générales en écoutant la messe. Hein. Donc là, on a un appel à cette
idée. C'est ce qui a beaucoup plu ici.
Voilà, et c'est pour ça qu'on l'a soutenu, c'était formidable. Et puis on avait trouvé la faille dans le système socialiste qui permettait de... Parce qu'autour de ces messes et de Waleza, on a agrégé toute une série d'intellectuels qui n'étaient pas plus religieux que ça, mais c'est par là que ça s'est engouffré. Donc ce recours à cette identité religieuse est un recours très très dangereux, mais il faut le replacer dans son contexte historique, dans la fin du XXe siècle, c'est-à-dire à quel moment a commencé le recours à l'identité religieuse pour intervenir directement dans le champ politique. Mais là, il y a une date extrêmement précise, c'est la guerre en Afghanistan. C'est-à-dire que, rappelez-vous, la stratégie de Brzezinski qui consistait à dire il faut résister à l'armée soviétique, donc des mécréants, des antichrétiens, etc., avec l'islam. Hein. Et donc, on a là, c'est là le départ de l'intégrisme musulman, Ben Laden, Al-Qaïda, etc. Tout ça continue. Donc, on a réussi à couper le monde dans l'état où il est encore aujourd'hui sur la base de cette opposition entre l'islam et les autres. Et ce qu'on a maintenant, on est en train de récolter. Alors, on le récolte chez Orban, on le récolte là avec cette équipe polonaise qui est une équipe carrément réactionnaire, on a une affirmation d'identité chrétienne par refus du musulman. C'est-à-dire, en fait, il n'y a plus de débat entre le capital et le travail, entre le progressisme et la réaction. On a des face-à-face religieux, on a des face-à-face de deux identités fantasmées. Car la majorité des musulmans du monde ne sont pas adhérents d'Al-Qaïda et désapprouvent ses méthodes. De la même façon que la majorité des chrétiens, surtout des orthodoxes, des protestants et des catholiques, n'adhèrent pas aux positions du parti au pouvoir à Varsovie. Donc on a une division factice qui profite aux grandes puissances et qui évite que des questions beaucoup plus fondamentales sur les rapports de société existants dans le monde entier, dans notre société globalisée, soient posées pour ceux qui sont là. Alors on dit, Orban se réfugie, nous on est des chrétiens, on ne veut pas des musulmans. Sous-entendu, tous les migrants sont des musulmans, ce qui n'est pas prouvé. Hein. Mais, et là, en Pologne, c'est la même chose, on n'aime pas ceux qui viennent de l'étranger parce que, oh, ils vont venir de Syrie, c'est des Arabes, c'est des musulmans, c'est pas bon, on n'en veut pas. Hein. Donc, danger, alors on met le doigt sur cette utilisation, donc qui est l'utilisation par l'impérialisme dominant de ces divisions identitaires factices. Alors elles ont des racines historiques. Bien sûr, la Pologne a été catholique depuis longtemps. Bien sûr, la Russie a été orthodoxe depuis longtemps. On en a parlé à nos émissions. Bien sûr, l'islam s'est imposé, mais pas partout. Alors, c'est pareil. Je pensais au cas de la Hongrie, c'est assez frappant. Il faut savoir que l'Empire ottoman, vous savez, a eu des tentations de s'étendre vers l'Ouest dans l'Europe autant qu'il a pu. Et puis il s'est arrêté un beau jour, on était en 1683, aux portes de Vienne. Et là, il a été battu par une alliance avec les Austro-Hongrois, les Suédois, etc. Et l'islam au pouvoir n'est jamais allé au-delà de cette limite. Mais on est dans des endroits, donc c'est vrai en Autriche, c'est vrai en Hongrie, où on peut encore, sur la base de ce rappel à une identité extrêmement dangereuse et puis qu'on peut falsifier ou caricaturer, se dire, le seul adversaire qu'on ait jamais eu, c'est pas le nazi qui nous a envahis, hein, c'est le Turc qui a failli nous envahir et qu'on a repoussé. Et donc on se situe dans le camp des vainqueurs, avec la morale, nous on est le côté du bien, l'autre c'est le côté du mal, etc. On a cette espèce de manichéisme moralo-chrétien, enfin moralo-religieux, qui est un facteur de division, qui profite aujourd'hui très largement à l'impérialisme fatigué, parce qu'il n'a plus que ça, il ne peut pas dire qu'il va assurer le bonheur et la prospérité pour tous, il ne va pas dire qu'il va arriver à nourrir tout le monde et à loger tout le monde, donc il a dit, il y a des bons et des méchants, et de toute façon le monde est triste, on s'entretue entre chrétiens et musulmans.
Bon. Et c'est ce qui fait la... c'est ce qui fait que la Syrie est menaçante.
Bien sûr,
justement,
parce qu'elle est unifiante.
Voilà, non seulement par rapport aux puissances occidentales, mais aux monarchies du Golfe, parce que la Syrie est justement un État multireligieux,
multiconfessionnel,
et avec un État laïque, et voilà, et un État qui justement montre que non, les gens sont depuis 2000 ans à peu près, eh bien, ils sont juifs, chrétiens, voilà. Après musulmans, ainsi de suite. Et c'est extraordinaire quand vous allez en Syrie, c'est notamment à Damas, mais ailleurs aussi. Mais enfin, à Damas, c'est extraordinaire de voir le voisinage très proche entre la basilique orthodoxe, l'église de Saint-François à Babtouma, les mosquées, ainsi de suite. C'est vraiment... Et d'entendre, et de voir... Moi, je me rappelle, ça m'avait frappé de voir sur les frontons des églises, qui font toujours fonction d'église, eh bien, sur le fronton de l'église, il y a des caractères musulmans. Et ce sont des caractères musulmans qui citent l'évangile.
Voilà, c'est ça, voilà. Écrit en arabe.
Alors, oui, évidemment, sûr, ça, oui. Quand on arrive, nous, bêtement, là, avec nos catégories qu'on nous a bien mis dans la tête, eh bien, là, c'est surprenant. C'est tout à fait surprenant. Et quand vous êtes réveillé le matin à Damas par les cloches de l'office catholique d'un côté, eh bien oui, c'était pas le muezzin, voilà. C'était les cloches.
Voilà. Et donc là, il n'y a pas d'identité.
Et là, il y a une menace. Voilà. Et là, ce fait-là est une menace. Le caractère vraiment profondément laïque, c'est-à-dire où tout le monde a le droit d'expression, est très, très, va à l'encontre de tout ce que tu as expliqué, voilà, et va évidemment à l'encontre de tout ce qui se passe dans les monarchies du Golfe.
Bien entendu.
Et qui sont beaucoup plus riches que la Syrie.
De loin, mais qui arment les
donc qui peuvent les, armer les effectivement les mercenaires les et mercenaires. Non pas les militants, voilà. Disons bien les mercenaires.
au nom d'un islam auquel dont ils sont peut-être pas très convaincus, mais c'est ça le facteur de division, c'est ça le facteur d'embauche.
Donc, et on leur demande pas forcément de passer l'examen de d'islamophilie.
Voilà, donc c'était intéressant de faire ce détour par Agatha Kolklopo et son film et là donc l'intégrisme catholique sévissant à l'heure actuelle en Pologne et de rappeler ce qu'elle a fait. Bon, je souligne là-dessus, c'est-à-dire aujourd'hui les messes servent de lieu d'intervention politique. Hein, alors je rappelais Valéza et les messe au chantier naval, je rappelais Carole Voltila, mais on en est là, c'est-à-dire on est dans une régression de la société catastrophique. À suivre. Alors, dernière chose, ce qui se passe, alors, c'était pas du tout le propos d'Agatha Lobko de parler d'autre chose que de cet intégrisme catholique, mais ce qui se passe, c'est que dans la même atmosphère, il y a une tentative qui risque d'aboutir sous la forme d'un vote au Parlement d'interdiction du Parti communiste polonais.
Alors là, comme ça a eu lieu à Kiev.
Voilà, ça a eu lieu à Kiev. Alors il y a une pétition. Alors je signale 2014. Que vous pourrez trouver en cherchant sur le net une pétition pour demander, pour refuser l'interdiction du Parti communiste polonais, pour expliquer pourquoi ce qu'il y a derrière. Enfin, c'est carrément du maccartisme et une chasse aux sorcières. C'est-à-dire que les Polonais, pour les communistes polonais, pour l'instant, peuvent vivre, mais ils vont peut-être être obligés de passer à la clandestinité et peut-être on va en tuer dans les rues quelque part. Ça. Bon, le climat est prêt. C'est pour ça que le projet d'Agatha de faire un film sur les jeunes néo-nazis est très intéressant, parce qu'elle veut aller les voir, essayer de voir comment ils fonctionnent, d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils ont dans la tête, etc. Mais on a là les bandes brutales qui sont prêtes, le jour où on leur donnera un feu vert gouvernemental, d'aller tuer le premier communiste qu'ils trouveront sur leur chemin dans la rue. C'est ça qui se prépare. C'est pour ça que c'est intéressant d'y réfléchir.
Cette pétition pour soutenir, enfin, demander à...
La non-interdiction.
Moi, je ne l'ai pas trouvée sur Internet.
Alors...
Lancée par le PRCF, enfin voilà. Pas lancée, pardon, elle est reprise, diffusée voilà. Ici par le PRCF, mais sur le site du PRCF, moi je ne l'ai pas trouvée.
Alors il faut aller regarder sur le site de la Solidarité de classe, le Comité internationaliste de Solidarité de classe, CISC, vous trouverez ce site sur Internet.
C-I-S-C.
Ou bien, c'est Comité internationaliste pour la Solidarité de classe, ou à l'Association des Amis d'Edouard Girec, qui est déposée en France, mais je ne sais pas si elle a un site Internet. Mais le comité, le CISC, a un site Internet. Donc on va le trouver là. Et donc il y a
c'est tout à fait
important. Et puisqu'on en était à parler communisme, rideau de fer, on n'a pas parlé de rideau de fer, mais enfin les hostilités entre les gens plus à l'est et les Polonais, eh bien, il faut dire qu'on a une actualité extrêmement cruelle mais très révélatrice qui se passe dans les trois républiques baltes.
Donc on fait référence là à la rubrique hebdomadaire de notre ami Manlio Dinucci que vous trouverez dans les sites... assez facilement, et donc qui s'intitule « Le nouveau rideau de fer ». Et donc Manlio nous dit que la Lettonie est en train de construire une enceinte métallique de 90 km, haute de 2,5 mètres, et qui est le long de la frontière, qui sera terminée dans l'année, et qui va être étendue ensuite en 2019 sur plus de 190 km de frontière. Un coût total 17 millions d'euros. Pareil, même chose, enceinte analogue de 135 km construite par la Lituanie, pour la faire à la frontière avec le territoire de Kaliningrad, donc le territoire russe, l'enclave russe de Kaliningrad. Et puis finalement, l'Estonie aussi a annoncé la construction prochaine d'une enceinte, pareil, de 2,50 m de haut, 110 km de long. Et là, 70 millions d'euros, eh bien, le gouvernement estonien espère avoir un financement de l'UE. Alors, cette enceinte qui est construite par les pays baltes le long de la frontière avec la Russie, elle a une efficience militaire pratiquement nulle, on peut le dire. Donc l'objectif est fondamentalement idéologique, c'est-à-dire vraiment faire croire qu'au-delà de l'enceinte, il y a une menace
très dangereuse. De l'autre côté
est dangereuse.
Voilà. Et dangereux.
Et donc
c'est le manichéisme, bon méchant, nous, hein, on se protège
alors,
du méchant.
Le président de la République italienne est allé voir, donc est allé en Lettonie deux fois. La première fois, il a félicité donc le gouvernement letton d'avoir choisi, je cite, l'intégration à l'intérieur de l'OTAN et de l'Union européenne et d'avoir décidé, je cite, d'embrasser un modèle de société ouverte fondée sur le respect de l'état de droit, sur la démocratie et sur la centralité des droits de l'homme. Ça, c'est les valeurs de l'OTAN, paraît-il.
Et l'interdiction du Parti communiste polonais.
Voilà. Et il se trouve que ce président letton, qui s'appelle Raimond Veijonis, venait d'approuver en avril le projet de loi qui interdit l'enseignement du russe en Lettonie. Or, 30% à peu près de la population est d'origine russe et le russe est employé comme langue principale par à peu près 40% de la population. Donc, on peut faire mieux comme droit de l'homme. Voilà. Et il a aussi dit à la base d'Adazi, où il est allé rencontrer le contingent italien, on ne dit pas là combien il y en a, mais on parlera après des Français, il leur a dit « Votre présence est un élément », donc le président italien qui parle, « Votre présence est un élément qui rassure nos amis lettons et nos amis des autres pays baltes ». Bon, là, on voit vraiment clairement l'opération psychologique pour montrer qui est le méchant. Voilà. Bon, en France, il y a, plutôt dans l'armée française, il y a actuellement depuis 2017, il y a un bataillon de 300 soldats à peu près. Donc, qui vont un coup en Lituanie, un coup en Estonie, et puis ils reviennent ainsi de suite. Il y a une force qui s'appelle, donc la force de l'OTAN, s'appelle présence, donc mission avancée renforcée. Voilà.
Voilà. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, nous y sommes, il y a un rideau de fer qui est plus idéologique d'ailleurs, mais on est dans ce cadre des divisions idéologiques que militaires, mais du côté ouest de ces nouvelles barricades, il y a des forces de l'OTAN, des forces françaises, voilà, de plus en plus nombreuses.
Il y en a, dans le cadre de la formation de cette position renforcée, il y a 1200 hommes.
Voilà. Bon. Je crois qu'on est au bout de notre temps, on va vous remercier. Je comptais finir par un coup de chapeau à la Pologne romantique en écoutant un petit morceau d'une polonaise de Chopin. S'il est sur la clé, tu vas le trouver.
Qui pleurait en la jouant.
Et oui, ben oui, ça c'est le romantisme polonais, ça fait aussi partie de l'identité.
Et en disant « mon pays ».
Oui, « mon pays ».